Beurre FM, les mots piégés du débat républicain, Pierre-Henri.
Il y a parfois des mots qui fâchent, des mots du vocabulaire politique. Souvent, ils sont mal connus, employés de manière inappropriée, instrumentalisés. Ils se répètent et se buzzent en réseau, confortant posture et parti pris. Ils font débat et nous divisent. Ce sont les mots piégés du débat républicain. Eh bien, ces mots, nous allons les déminer, les expliquer, pour vous permettre de mieux les connaître. Les mots piégés du débat républicain, une série qui débusque les faux-semblants, c'est sur Beurre FM. Après être revenu sur l'origine du mot et sa balade dans l'actualité, je reçois un invité qui nous aide à y voir encore plus clair. Aujourd'hui, c'est le mot intersectionnalité qui est sur la sellette. Si vous conduisez, vous savez sûrement ce qu'est une intersection. Lorsque deux routes se croisent, se coupent, la sociologie s'est emparée de l'idée de point de rencontre entre deux lignes pour créer un nouveau mot et un nouveau concept, celui d'intersectionnalité. C'est pour faire simple, la rencontre entre différentes formes de discrimination et pour mieux y faire face, d'y faire converger les luttes. Le mot est devenu assez courant et il va bien au-delà de son sens initial. La notion d'intersectionnalité née en 1989 aux USA, à partir d'une affaire juridique, une employée afro-américaine constatant que dans son entreprise, certains emplois étaient accessibles aux seules femmes blanches et que d'autres étaient réservés aux seuls hommes noirs, porte plainte pour discrimination. Mais pas pour discrimination sexiste ou raciste. Elle porte plainte pour les deux discriminations en même temps. Résultat, la plaignante fut déboutée car la justice américaine ne reconnaissait pas cette situation de double discrimination. Partant de ce vide juridique, l'universitaire Kimberlé Crenshaw établit sa théorie. Puisqu'une femme noire subit les discriminations que ne rencontrent ni une femme blanche ni un homme noir, le féminisme et l'antiracisme seuls ne suffisent pas. Il faut un entre-deux, à l'intersection des deux combats. Ainsi naît l'intersectionnalité. Ce n'est pas une notion futile puisque l'accumulation des discriminations est un fait. Il peut être alors pertinent d'aborder cette question avec ce concept. Il fournit une nouvelle grille d'analyse qui innove sur les méthodes de lutte contre les discriminations. Aujourd'hui, le concept dépasse largement la seule intersectionnalité femme et noir. Il s'est étendu à toute personne qui subit, entre guillemets, les normes dominantes. Homme, blanc, hétérosexuel. L'intersectionnalité s'est transformée en mouvement regroupant plusieurs luttes. Et il arrive parfois, comme dans tout collectif, que les intérêts de ceux qui se sentent opprimés divergent alors qu'ils devraient converger. Comment peut-on en effet promouvoir, par exemple, dans un bel et même élan intersectionnel des combats féministes ou LGBT et lutter en même temps pour la défense de préceptes religieux conservateurs? Étudier tout problème sociétal sous le prisme des origines ethniques, du genre ou de l'orientation sexuelle, est devenu obsessionnel pour certains militants intersectionnels. Il crispe les débats autour de l'identité, réduit l'individu à une étiquette définie par sa seule couleur de peau, sa seule religion. Du coup, l'intersectionnalité prétend rassembler les minorités, en faire un étendard. Est-ce l'idéal pour combattre les discriminations? Que l'on soit discriminé ou non, que l'on soit une femme, un noir, un musulman ou un homosexuel, la lutte contre les inégalités, c'est l'affaire de tous, sans distinction. Et donc, l'intersectionnalité, nous allons en discuter avec notre invité, Martine Storti. Actuellement écrivaine, Madame Storti a été journaliste de nombreuses années chez Libération, où elle a couvert les mouvements féministes pendant les années 70. Martine Storti a également présidé une commission du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Elle est donc l'auteur de rapports sur la diplomatie féministe. Son dernier ouvrage pour un féminisme universel, publié en 2020 aux éditions du Seuil, s'interroge sur les formes de lutte féministe dans notre société contemporaine. Bonjour Martine Storti.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cet entretien sur l'intersectionnalité. J'ai d'abord une question simple à vous poser. Pensez-vous que l'approche intersectionnelle puisse être pertinente pour combattre les discriminations?
Alors, je pense qu'il faut, distinguer deux niveaux, pour décrire ou analyser et d'autre part pour combattre. Alors, pour décrire et analyser, l'intersectionnalité est un concept en effet extrêmement fructueux. Il est évident que les oppressions peuvent se combiner, peuvent se croiser, peuvent s'additionner, des discriminations aussi évidemment, et ça relève en quelque sorte de l'évidence. Alors le mot intersectionnalité, comme vous le savez sans doute, a une origine américaine, puisque c'est une juriste américaine qui, constatant que des femmes noires voulant lutter contre une discrimination dans leur entreprise étaient renvoyées soit au sexisme, soit au racisme, mais jamais aux deux en même temps, elle a donc forgé ce concept d'intersectionnalité. Mais si le mot est nouveau, remontant donc à quelques décennies,
Années 90,
la réalité, la chose, si j'ose dire, ne l'est pas. Si je me souviens bien, dans les années 1970, il y avait en France une coordination des femmes noires, par exemple, pilotée, cofondée notamment par Hawa Thiam, une franco-sénégalaise, qui combattait en même temps le patriarcat blanc et le patriarcat noir, pour le dire comme ça. C'est-à-dire cette oppression qui pouvait venir à la fois des blancs contre de manière raciste et aussi le propre patriarcat dans une communauté. Donc l'idée qu'il y a plusieurs croisements de différentes discriminations, pour le dire comme ça, relève de l'évidence. Ça, c'est au niveau de la description, en quelque sorte, ou de l'analyse de ces discriminations. Maintenant, les combattre, c'est peut-être plus compliqué. C'est-à-dire que si on se place du côté de l'oppression, je considère que l'intersectionnalité est très fructueuse. Si on se base du côté, de l'émancipation, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que dans les faits, à l'usage, malheureusement, on ne peut que constater que bien souvent, l'intersectionnalité, qui par exemple affirme combattre en même temps la discrimination ou l'oppression de race, de sexe et de classe, en oublie une ou deux au passage. Et si on regarde la scène française, il est assez facile de voir que souvent, l'oppression ou la discrimination liée à l'origine de race, avec des guillemets bien sûr au mot race, mais il est repris par beaucoup de gens, ce mot est repris par beaucoup de gens aujourd'hui, la lutte contre le racisme va l'emporter, va être plus importante pour beaucoup de collectifs que la lutte contre le sexisme ou contre l'oppression de genre ou l'oppression des femmes.
Mais
donc,
vous n'avez pas...
C'est ça la difficulté, si vous voulez.
Oui, mais vous n'avez pas le sentiment que face aux crispation identitaire, le combat féministe se trouve quelque peu limité aujourd'hui. Et donc, la question, c'est quelle position doit adopter le combat féministe face à ces crispations identitaires, et sachant que l'intersectionnalité ne répond pas véritablement la lutte et à l'émancipation. Je vais prendre un exemple très, très simple. Dans un même élan intersectionnel, on peut avoir des combats féministes ou pour le droit des LGBT, puis lutter en même temps pour la défense de préceptes religieux conservateurs. C'est un peu compliqué, non ?
Ah, mais justement, je pense que vous avez tout à fait raison. Je veux dire, ce que vous appelez les revendications identitaires ou les crispations identitaires sont absolument à combattre. Malheureusement, on constate que cette pensée en termes d'identité, que moi je considère comme une impasse, est une pensée qui traverse tous les courants politiques et de très nombreux collectifs, y compris se réclamant du féminisme ou de l'antiracisme, etc. Donc moi je pense qu'il faut refuser la pensée et la lutte en termes d'identité. C'est cela que j'appelle un mauvais usage de l'intersectionnalité, parce que dans le combat, encore une fois, distinguons analyse et combat. Dans le combat, bien souvent, l'antiracisme l'emporte. Je prends un exemple. La lutte contre les agressions sexistes et sexuelles dans les rues. Quand ce projet a été présenté par le gouvernement, il y a un certain nombre de collectifs qui se disent à la fois, qui se disent intersectionnels, ont immédiatement qualifié ce projet comme étant, comme visant les racisés, comme ils disent. Et là aussi, je mets des guillemets. Comme si la lutte, l'agression sexuelle était le fait que des racisés, pas du tout. Toute l'histoire montre que le sexisme, le viol et les agressions sexuelles sont le fait de, non pas de tous les hommes, mais en tous les cas d'hommes de toutes les catégories, que ce soit des blancs, que ce soit des noirs, que ce soit des jeunes, que ce soit des vieux, que ce soit des gens de gauche, des gens de droite, des musulmans, des catholiques, etc. Donc, je pense que le féminisme doit définir sa propre voie de manière autonome. Le combat pour l'émancipation des femmes est un combat irréductible à aucun autre. Alors, on peut s'allier, mais en tous les cas, le combat doit être autonome et considérer que la lutte pour l'émancipation des femmes est une lutte en tant que telle. C'est cela que j'appelle un féminisme universel, c'est-à-dire quelque chose qui trace son chemin, son propre chemin.
Celui dont vous parlez d'ailleurs dans votre dernier livre, paru aux éditions du Seuil, pour un féminisme universel. Mais finalement, Martine Storti, vous nous dites que la lutte féministe, si elle peut reconnaître un certain nombre d'intérêts à l'intersectionnalité, cette dernière présente également des limites la lutte pour l'émancipation et l'égalité.
Donc, si l'intersectionnalité se rabat sur l'identité, en effet, ou si elle privilégie, et donc elle n'est plus intersectionnelle, l'antiracisme plutôt que la lutte pour l'émancipation des femmes, elle n'est plus une lutte féministe, en effet. Et vous voyez, moi je pense que le féminisme universel, c'est un féminisme, il ne faut pas assimiler universel et uniforme. Un féminisme universel, c'est un féminisme qui intègre les différences, mais pour les dépasser, pas pour se figer dans telle ou telle identité. Et j'ai une formule dans mon livre, en effet, je dis le féminisme universel, il suffit d'ouvrir les yeux pour le voir. Il est dans tous les combats qui se mènent aujourd'hui, par-delà des différences, autour de deux principes politiques fondamentaux, qui sont l'égalité et la liberté. Et cette l'égalité et la liberté, c'est la lutte des Afghanes aujourd'hui, malheureusement dans une situation absolument épouvantable, pour continuer à enseigner aux filles et aux adolescentes qui sont exclues de l'enseignement secondaire. C'est la lutte des Iraniennes contre le voile, c'est la lutte des Polonaises pour l'avortement, c'est la lutte des Chiliennes qui ont dénoncé les agressions sexuelles contre les opposants politiques. Je pourrais multiplier les exemples. Je crois qu'il y a un en commun des femmes à promouvoir. Cet en commun, nous ne voulons pas dire qu'évidemment la situation des femmes est partout la même. Il est clair que la situation des femmes en France et la situation des femmes en Afghanistan, ce n'est pas la même. N'empêche que, dans tous les combats qui se mènent, il y a cette revendication pour l'égalité, pour la liberté.
Merci de ces propos. Et puis, j'invite une nouvelle fois les auditeurs à se procurer votre livre « Pour un féminisme universel » publié en 2020 aux éditions du Seuil.
C'était les mots piégés du débat républicain en partenariat avec France Fraternité.